What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I going to say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de débat, d'analyse, de partage, d'accord et de désaccord autour d'une série et d'une thématique, toujours dans la passion critique et la joie journalistique.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Business Insider. Salut Marie.
Hello.
Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Hello Anne.
Hello.
Et Julia Baudin de TV Mag. Bonjour Julia.
Bonjour Pierre.
Sur la table, une série de science-fiction française, ça n'arrive pas tous les jours, Mission au pluriel, voyage martien diffusé sur OCS City depuis le 1er juin et récompensé par le prix de découverte remis par l'ACS au dernier festival de Série Mania, une série produite avec peu de moyens mais qui a de belles ambitions pour dont nous allons critiquer l'ensemble et qui nous servira aussi de prétexte un petit peu pour voir ce que la SF parvient à faire sur nos écrans hexagonaux.
Voilà, il y a 4 ans déjà, j'ai fait le rêve d'aller sur Mars. Voilà. J'y ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et, accessoirement, donner un sens à ma vie. Ben, nous y voilà, les enfants. Demain, nous nous posons sur Mars. Mais nous ne serons pas les premiers.
Pardon ?
Une mission concurrente américaine nous a pris de vitesse. Ils se sont posés il y a 15 jours.
Quoi ?
La NASA ? Ça n'a aucun sens.
C'est complètement con.
La NASA est juste partenaire. C'est la firme Zillion qui est derrière cette mission. Z1, comme ils la surnomment. Z1. A fait le chemin vers Mars en à peine 3 semaines.
En 3 semaines? Mais comment c'est possible?
Grâce à un nouveau système de propulsion nucléaire.
On s'est fait doubler par vos concurrents, c'est ça? Mission, ça s'écrit au pluriel, donc ça se déroule sur Mars, la planète rouge, où une équipe européenne va se poser, va forcément affronter de nombreux dangers, mais surtout réaliser qu'ils se cachent sous la surface rocheuse du désert qui les entoure, des questions existentielles, universelles, autant qu'intimes. Est-ce qu'on peut parler d'une série qui, dans ses ambitions tout du moins, lorgne vers 2001, l'Odyssée de l'espace, Solaris, bref, l'aventure spatiale métaphysique qui se lance sur cette première question, on ne peut plus complexe. Anne.
Oui, on peut dire ça, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi, j'envisage pas trop la science-fiction sans métaphysique, sans vouloir...
Ça peut être aussi très politique, quand on parle d'une série comme Battlestar Galactica, ou très...
Oui. Bon, bah, alors moi, je préfère quand c'est métaphysique.
Mais ça l'est aussi, d'ailleurs, Battlestar Galactica est aussi métaphysique.
Oui, quand même. Ouais.
Après, faut faire confiance à la série, parce que dans les 4 premiers épisodes, on n'a pas trop cette dimension-là. Pas très onirique, on est plus dans un truc au départ de science-fiction où il y a une équipe dans un vaisseau spatial et qui va atterrir sur une planète inconnue. Et c'est que fin du 4e, 5e que là on commence à avoir vraiment une dimension un peu plus grande. Avec,
Oui,
c'est vrai, parce qu'au début finalement on est dans presque un film catastrophe. On atterrit difficilement sur Mars. Et comment on va survivre? Qu'est-ce qui va se passer, Julia? C'est un peu ça au début qui tend, en tout cas, ce qui tend les premiers épisodes.
Au début, c'est la catastrophe totale et c'est la catastrophe tout de suite. C'est-à-dire que rien ne fonctionne, rien ne va. Entre le moment où ils se positionnent en orbite autour de Mars et le moment où ils atterrissent enfin sur Mars, rien ne va plus. C'est comme s'ils savaient déjà tous qu'ils allaient mourir. Après, c'est l'entreprise de sauvetage qui commence. Et en fait, toute la série est construite là-dessus. En revanche, la comparaison que tu faisais tout à l'heure, les références magnifiques à 2001 de Kubrick et Solaris de Tarkovsky.
Ça fait mal comme
ça
référence.
Ça fait un peu mal, oui, quand même.
Oh, bah.
Mais c'est bien
viser
quelque part.
Mais
viser les étoiles, justement.
Mais c'est bien d'essayer.
Visons Mars.
On sent que c'est quand même leur référence et qu'ils ont des références un peu plus grandes et qu'il y a envie.
Ils sont pas cachés.
C'est quand même bourré de pop culture. Les personnages, tu sens qu'ils ont grandi avec ça. Ils sont un peu empreints de ça. Donc c'est cette atmosphère-là qui plaît, qu'on retrouve un peu dans Stranger Things de l'autre côté du spectre américain.
Oui, et la musique d'ailleurs, c'est une musique électro qui rappelle un petit peu ce genre d'ambiance. Puisque c'est une série, quand on parle de la saison 3 du Bureau des légendes, comme la semaine dernière, évidemment, on connaît déjà les personnages qu'on connaît moins. Peut-être rapidement, tu parlais de références. L'équipe, d'ailleurs, ce que j'ai bien compté, ils sont 8, hein, donc ça fait un peu alien, comme je sais pas si c'est un clin d'œil.
C'est totalement alien. La salle commune aussi, elle fait totalement alien, où ils se retrouvent pour prendre un dernier petit déjeuner avant de partir.
Comment, les personnages, c'est vrai qu'on est aussi face, alors, comme dans beaucoup de séries, mais à des archétypes en tout cas.
Ouais, c'est ça, tu dis, on les connaît pas. En vrai, on les connaît un peu. Ouais. Tu vas avoir la psy mystérieuse, très intelligente, qui est un peu l'héroïne, mais qui est notre porte d'entrée dans ce monde-là. Et puis, il y a le grand beau gosse qui est un peu bad boy. Et puis, il y a le capitaine qui est très alpha male. Donc,
Le geek, très geek, voilà, les
personnages du coup de les deux femmes sont un peu les deux autres femmes, donc il y en a deux autres dans l'équipage, sont un peu moins présentes et correspondent pas trop à ces archétypes parce qu'on en a pas eu, enfin dans les années 80 il y avait moins de personnages féminins, donc on sait pas trop quoi en faire. Elles sont là, elles sont intelligentes parce qu'elles sont quand même dans l'espace, donc on va leur donner quelques lignes, mais bon
avec une spécificité quand même, c'est que c'est un équipage européen, il faut le dire, voilà, c'est des gens de pays différents. Donc avec les accents qui vont avec.
L'allemande est assez névrosée. Mmh. Et l'italienne, qui est médecin, est plutôt... Elle prend les choses avec distance.
Oui, on ne dira pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle a une capacité à prendre les choses avec distance. Est-ce qu'on peut vendre Mission comme une série spectaculaire? Moi, je la voyais plutôt comme une série d'introspection. On va parler du budget, évidemment. C'est une série à petit budget. Hein. C'est à peu près 200 000 euros par épisode, je crois.
C'est 1,5 million d'euros pour la totalité.
Voilà, pour les 10. Ça fait vraiment peu.
Ce qui correspond au budget d'un épisode de Section Zéro.
Voilà.
De l'argent bien utilisé.
Et tu sais que j'ai eu un moment de... J'ai fait Section Zéro, c'est quoi déjà? Ça y est, ça vient de me revenir. Donc vous avez le droit d'aller sur Google pour taper Section Zéro pour voir de quoi on parle.
Ceci dit, pour justement lui rendre hommage, par rapport à une série comme Trépalium qui avait un bon budget également, une série d'Arte d'anticipation, qui puait le fond vert vraiment à 10 km, là, il y a beaucoup moins d'argent. Et pourtant, c'est quand même très bien fait. Ils se sont dit, on va mettre le paquet sur certaines scènes, on les voit dans l'espace, on voit un beau vaisseau, on se dit pas tiens ça fait cheap, ils ont su maîtriser
ça
le
fait pas cheap,
mais alors, au-delà de la prod, parce que on va y revenir évidemment et essayer de dire en quoi c'est pour moi la principale réussite de la série, même s'il y en a d'autres, mais pour moi c'est avant tout une réussite visuelle et esthétique et de production pure et dure, en soyons un peu techniques. Est-ce que c'est une série, alors on est dans l'espace, on est sur Mars, il y a des dangers, est-ce que c'est une série tendue, est-ce que c'est une série d'action globalement, ou est-ce que en fait c'est vraiment avant tout un drame psychologique où on est enfermé dans un vaisseau la plupart du temps?
Ça jongle pas mal entre les deux quand même. Mmh. C'est plutôt à ce titre-là, c'est plutôt réussi entre les moments qui sont plus analytiques, plus métaphysiques, voire carrément mystiques, pour ne pas dire christiques, et puis les moments d'action pure qui peut-être retombent un petit peu vite faute de moyens. Mais les efforts qu'ils ont menés sont colossaux.
Il y a une vraie appropriation des codes de la série avec le cliffhanger de fin d'épisode qui te donne envie de... Nous, on a eu la chance d'avoir les épisodes d'un coup et t'as envie de binge-watcher cette série, en fait. T'as pas envie de t'arrêter.
Elle est construite comme ça. Hein.
Voilà. Mais c'est intelligent. Ça veut quand même dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire en France beaucoup. Donc, c'est plutôt chouette de créer cette envie-là. Et je trouve qu'on a de plus en plus de séries françaises aujourd'hui qui arrivent à maîtriser cette envie.
Efficacité.
Ouais. C'est efficace. Mm-hmm.
Est-ce que on peut dire de quoi il est question métaphysiquement ou philosophiquement sans spoiler la série? Elle est dure celle-là. Hein. Est-ce qu'on peut ou est-ce que c'est trop compliqué parce que c'est justement l'enjeu central et qu'une fois qu'on a expliqué de quoi ça cause, eh bien on balance l'intrigue et on ne s'en sort pas.
Ouais, c'est pas trop
compliqué. Oui, Julien, je te vois dire oui. Ça dit. Enfin, on peut dire quand même qu'il est question de réalisation, c'est-à-dire que les personnages vont réaliser. Alors c'est très classique, hein, comme réaliser qui ils sont et pourquoi ils sont là, aussi bien dans l'existence que sur Mars. Et c'est ça l'intérêt central de la série, c'est de voir finalement, c'est un questionnement sur leur identité profonde. Ça va, j'ai pas trop spoilé en disant ça. Et Julia, je te sens dubitative.
Tu peux parler du péché originel aussi.
Ah oui, alors là, c'est très cryptique pour le coup. On va pas y arriver. Est-ce que du coup l'action, on en parlait un petit peu, est-ce que elle est suffisamment efficace? Est-ce que les 200 000 euros passent uniquement dans les décors, ou est-ce qu'il y a aussi un savoir-faire dans la narration qui fait qu'il y a du rythme, qui fait que les personnages, même quand ils sont enfermés à 8 dans la même pièce, on est capable de créer du mouvement, ou est-ce que c'est pas interdit de s'emmerder en regardant Mission?
Je pense que le problème de cette série, mais ça on y reviendra sans doute plus tard dans l'émission, le problème de la série c'est pas tellement sa construction, sa narration ou la, 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 le déroulement, l'enchaînement des scènes d'action et des scènes plus, plus introspectées, c'est plutôt le jeu. Moi, ah oui. C'est le jeu qui me pose problème.
Ça, c'est sûr. On va en reparler.
Voilà, on va en reparler. Pour le reste, il m'a semblé que c'était plutôt bien fait.
Oui, c'est quand même vachement bien rythmé. Faut lui accorder ça. Après, le jeu, c'est autre chose, mais c'est construit comme une série chorale, même si au bout d'un moment, plusieurs personnages vont sortir du lot. Mais il y a quand même une envie de donner de l'épaisseur un petit peu à chaque personnage, de les faire, même s'ils vont agir de manière un peu cliché. Le fait que les dialogues vont vite, qu'il y a quand même des petites blagues de temps en temps. Alors, c'est marrant, j'en avais parlé à quelqu'un qui me disait, j'ai pas beaucoup ri en regardant Mission, et je me suis dit, pourquoi tu voulais rire? C'est pas une comédie. Et il y en a qui ont cru que c'était un peu une comédie.
Oui, alors on va
comédie,
en parler, mais c'est parce que c'est un format comédie, mais ça, on en reparlera.
Ouais, c'est un truc de format. Mais pour moi, c'est un vrai drame. Et ce qui fait c'est la qualité du drame, c'est que justement, il y a des petits moments comiques. Et il y a des moments où on va se marrer, il y aura des bonnes vannes, il y a des trucs bien écrits, un peu à la OCS, le bon côté d'OCS qui ressort là-dedans, et qui fait que, du coup, ça donne un bon drame. C'est pas, pour moi, c'est ni une dramédie, ni une comédie, c'est un vrai drame de science-fiction.
Oui, de science-fiction. Ça.
Hyper profond.
Ah oui, ça se prend au sérieux, quand même, au bon sens du terme. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas au second degré.
On n'est pas dans la parodie. Ah oui, non, c'est effectivement, là, s'il y a un malentendu là-dessus, c'est compliqué.
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La production, ce budget, concrètement, est-ce qu'on peut donner quelques éléments qui font que cette série est une sorte de tour de force? On peut le dire pour le coup que c'est une belle série pour un petit budget. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés à faire ça?
S'ils ont dit eux-mêmes que ça les a obligés à être un peu inventifs et créatifs, alors tu veux quoi dire que la planète
Making
Mars, c'est
Making of un peu.
La planète Mars s'est tournée au Maroc et le reste c'est essentiellement c'est tourné en France.
C'est à La Rochelle, oui.
Alors à La Rochelle, il y a un studio pour la navette là, et puis oui, tourné au Mont Blanc et dans une carrière, je sais plus trop où, mais en France.
Et
il faut
tout
quand
ça,
même savoir que le grand vaisseau n'est pas un jouet qu'on a suspendu avec des fils de nylon, mais qu'il y a effectivement un vaisseau qui a été construit et qui fait 35 mètres de long.
Ouais. Il y a des maquettes aussi, voilà. Hein, ça.
Il y a aussi des maquettes.
Il y a de l'effet spécial, mais il y a aussi des maquettes. C'est un mélange de plein
de choses.
Le rover, quant à l'aspect extérieur, est une maquette de 90 cm, mais quant à l'aspect intérieur, ils ont remodelé un véhicule militaire qu'ils ont récupéré. Mais... une maquette, un vaisseau de 35 mètres de long dans un studio à La Rochelle, ça c'est assez inédit pour la
télé française.
Oui, absolument.
Ce qui est intéressant, c'est aussi comparer aux autres séries d'OCS. Donc OCS avant est quand même connu pour faire des comédies de 26 minutes qui sont pas du tout science-fiction et y a pas du tout d'ambition de production de cette manière-là. Donc c'est fou qu'avec le même budget ou peut-être un budget un tout petit peu supérieur, ils arrivent à faire quelque chose de totalement différent et de beaucoup beaucoup plus construit. Parce que ce soit In America, que ce soit France-Québec, que ce soit QI, il n'y a pas ce budget.
Mais déjà, les grands qui étaient faits par la même boîte de prod Empreinte Digitale étaient visuellement plus léchés. Mmh. Leurs dernières séries sont visuellement un peu plus léchées. Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'à la base, c'était un peu... QI, la première, c'était limite, on entendait l'autoroute quand il y avait les prises de son. Quoi. En tout cas, sur les premières saisons, il y avait des prises de son qui étaient beaucoup, 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 beaucoup moins bonnes. Et c'est vrai que là, on a affaire à un beau produit fini. Je crois que je rajouterai une dernière chose, qu'il y a eu deux saisons qui ont été d'entrée de jeu validées. Hein, et du coup, ouais, ça permet de rentabiliser les décors, etc. Et ça aussi son importance.
Je sais que c'est très indiscret, mais je me demandais si vous aviez déjà envoyé votre rapport psychologique à la Terre.
Vous savez que je ne suis pas censée vous révéler quoi que ce soit. Oui, j'imagine que quand on dépense 240 milliards d'euros sur ses deniers personnels pour une mission vers Mars, on dispose de passe-droit.
Exactement.
Voilà. Alors, vous voulez quelle version? La mienne ou l'officielle?
Elles sont différentes.
Ah oui, très.
Commençons par l'officielle.
Bien, tout va très bien à bord. Rien à signaler, nous pouvons atterrir sans risque.
J'en ai jamais douté. L'officieuse?
Eh bien, les 10 mois de voyage ont exacerbé des névroses dangereuses chez plusieurs membres d'équipage. Basile, par exemple, développe des symptômes de sociopathie. Il est arrivé qu'il ne parle pas aux autres, enfin, à part Irène, évidemment, pendant une semaine sans que personne ne s'en aperçoive. Gramma, pourtant commandant en second, s'est volontairement écarté de la chaîne de commandement. Lui et le commandant ne se parlent pratiquement plus. Bon, commandant qui traverse une crise conjugale, ce qui, bien sûr, nuit gravement à son jugement et aux prises de décision. Et je pense qu'Alessandra est en pleine dépression. Et quant à vous, ça fait 2 semaines.
Oui, oui. Merci.
Donc si je devais formuler un avis circonstancié et objectif, je recommanderais de ne pas nous poser sur Mars.
entrons dans le vif de notre critique, chers amis. Est-ce que vous avez été emporté par le scénario de Mission, dont nous n'allons évidemment pas révéler les surprises, mais dont on peut dire que, dont on peut dire s'il est bien foutu au moins, c'est notre job. Donc, est-ce que finalement Mission vous a convaincu, en tout cas sur le scénario? On va commencer par ça.
Bah, déjà, on lui a remis le prix de l'ACS, donc ce serait un peu dommage de dire qu'on l'a pas du tout aimé.
Toutes les un jury, il faut
dans,
le dire.
On était dans le jury, voilà, donc pour Série Mania.
Vous êtes pas là pour rien.
On avait regardé beaucoup, beaucoup de séries. On a choisi de le remettre à Mission, principalement, et ça va aussi être le défaut, et ça ressort de ce podcast à peine au bout de 10 minutes, c'est qu'on parle beaucoup de la production. Mmh. On parle de la qualité, on dit « Ah, c'est vraiment pas mal, c'est bien ». Après, du coup, on est quand même en décalage par rapport à d'autres séries où on va aller sur le fond, on parlera beaucoup plus de ce que ça nous a fait ressentir. Je suis pas sûre que ça m'ait fait ressentir beaucoup de choses, mais j'ai été impressionnée. Je trouve que c'est dans cette direction qu'il faut aller, et donc je trouve qu'elle est peut-être plus importante en termes de ce qu'elle représente dans le paysage audiovisuel des séries aujourd'hui que dans le fond de ce qu'elle apporte. Donc elle est importante, donc je l'ai aimée pour ça. Après, en termes de qualité, je préférais d'autres séries.
Anne.
Bah, elle est importante exactement pour les raisons que tu viens de dire. Parce que science-fiction, parce que pas beaucoup de choses comme ça en France. Et puis, alors, il faut pas non plus avoir l'air de dire qu'on a été condescendant et que parce que
c'est un point de vue de critique vraiment. Que vous voilà, donnez, là. J'ai peur pour le téléspectateur si je vous écoute finalement.
Oui, non, mais c'est pour ça que je voudrais pas faire peur et que quand même, même si sur le plan du fond, c'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que bon, voilà.
Hein, on va en parler tout de suite aussi des influences.
Mais voilà, c'est très sous influence et c'est peut-être pas très 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 neuf, mais enfin, ça quand même, ça tient la route. On a envie de la regarder, on s'ennuie pas. C'est bien rythmé et c'est très bien fichu quand même, voilà.
Julien, un mot.
Moi, à part faire une synthèse entre ce qu'on dit, mais ce que viennent de dire mes deux collègues, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je le trouve que c'est très maîtrisé, que les codes sont parfaitement maîtrisés, que les références sont bien maîtrisées, que l'histoire elle est bien construite, et que s'il y a effectivement rien de bouleversant quant à l'innovation, ouais. C'est un bel objet, c'est un bel objet sériel, et de la part d'une chaîne qui jusqu'ici a produit quand même des choses qui sont de mieux en mieux d'un point de vue qualitatif. Et le format 26 minutes, c'est même pas toujours 26 minutes, c'est souvent des épisodes de 20 minutes, si c'est sûrement pas facile. C'est à la fois facile et pas facile à gérer. Et ça tire bien son épingle du jeu.
Alors, pour parler des références, hein, y a un ordinateur de bord qui s'appelle Irène, mais bon, clairement, ça doit être la cousine de Hal, hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Une héroïne qui semble sortie d'un alien, surtout quand on prend Noomi Rapace. Des rebondissements qui font penser à Lost, en tout cas, certains éléments hein, qui sont un peu lostiens, si j'ose dire. Des personnages qui s'appellent Renoir, Duano et Verhoeven, quand même, rien que ça. Est-ce qu'on peut parler d'une série quand même profondément référencée, peut-être même trop référencé, qui est peut-être même trop un copier-coller de choses qu'on a déjà vues avant, c'est peut-être un de ses défauts.
Non, moi je trouve pas. Alors Renoir, Duano, Verhoeven, bon, il y a un petit peu d'humour quand même là-dedans.
Faut espérer.
Oui, quand même. Et puis non, moi je trouve que les références, ça fait presque partie de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est souvent la science-fiction, c'est ça. Et ça fait partie du plaisir d'être un peu dans le club d'initiés. Donc, on comprend bien. Tant qu'on n'est pas dans la copie, stupide ou dans la parodie involontaire. Non, moi là vraiment, je trouve que ça, c'est même agréable. Hein.
Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il y a quand même des rebondissements un peu attendus. Il y a des traits de caractère qui sont forcés et dans ce.
À défaut d'être attendu, familier, si j'ose dire.
Ouais, plutôt. Ouais. Peut-être familier. Un truc de. T'as quand même l'impression que ça pourrait être une bande de potes qui avait vraiment pas de budget, qui a décidé de faire un huis clos parce qu'ils adorent la science-fiction et du coup ils ont essayé de refaire un truc. C'est le genre de pièce de théâtre que j'aurais pu écrire au lycée. Tu vois, j'étais un peu et tu sais que je vous enverrai mes pièces de théâtre du lycée.
Mais, t'as l'impression de dire ça.
Donc je comprends qu'il y ait moi ce en n'étant pas en plus une très grande fan de ces références là, j'ai quand même été accrochée, mais j'ai pas été transcendée par. Enfin, il y avait rien de nouveau.
Ça peut être agréable les références. Hein. C'est une façon de permettre au public d'identifier quelque chose qui surtout dans un genre qui est.
Ces références là, moi, ça me fait plutôt plaisir. Mais après, effectivement, ça ne transcende pas le genre, on va dire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas ça dénature pas non plus. Enfin. les références, quoi. C'est pas comme si on s'en servait d'une manière complètement stupide. On sent que les gars, ils connaissent tout ça et qu'ils aiment ça et ils en trahissent pas l'esprit, quoi.
Oui, enfin, oui, non, et ils en font pas une parodie non plus.
Mais même sans appuyer les références et les dire, le fait qu'il y ait un personnage qui ait une fonction, genre, il y a le
ah oui,
le,
après,
celui, dans la construction des personnages, il y a
les stéréotypes. Oui.
Voilà.
Oui, oui, ça, c'est sûr.
Nous, on cherche
ça,
quand même à aller un peu.
C'est pas ce que j'appelle les références, là. Effectivement, si tu parles des stéréotypes, type, là, je suis d'accord avec
oui,
toi.
Oui, mais quand tu imagines une série avec ou un film avec 8 personnes dans une cabine comme ça fermée, tu vas en premier penser exactement à ce genre de personnage. Oui. La dépressive,
le mec dangereux,
le mec dangereux, ouais. Le mec qui prend les bons choix, mais ça plaît pas à tout le monde, le grand méchant. Tu vois, c'est très classique.
Au-delà de ces références, dans ce que Marie, tu disais tout à l'heure, je crois que t'as pas été ému parce que et pourtant enfin l'histoire de l'héroïne se veut émouvante. Est-ce que c'est le cas de moi j'ai pas été ému aux larmes évidemment, j'ai trouvé ça touchant dans ce que ça montrait, mais là aussi encore une fois c'est presque plus Spielbergien, je sais pas si le mot s'adapte ici, et la pauvre série après 2001 l'Odyssée de l'espace et Solaris, je leur suis sort Spielberg. Mais
même t'aurais pu dire Blade Runner ou
oui,
Alien, tu vois.
Voilà, mais c'est finalement à défaut d'être émouvant touchant cette histoire.
Que la relation qui se noue entre les deux personnages qui vont devenir le héros et l'héroïne de la série, elle est assez belle parce qu'elle est noble. Voilà, une relation noble dans une série, c'est plutôt et particulièrement dans une série de science-fiction, on en rencontre assez rarement qui soit étudié de cette façon-là. Il n'y a pas ça, il n'y avait évidemment pas ça dans Section Zéro, dans les séries françaises récentes qui appartenant au genre science-fiction. Il n'y a pas du tout ça dans Trépalium.
Il y a des grands sentiments, là.
Il n'y aura pas ça dans Transfert. Il y a des grands sentiments. Et puis, il y a autour de ces deux grands acteurs qui, pour moi, sont les deux bons, vrais bons acteurs de la série, il y a un beau renvoi.
Alors, tu parles des acteurs, parlons-en. C'est vrai que pour moi, c'est le problème de Mission, qui, par ailleurs, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table, est une réussite en de nombreux points et qui, en plus, prend un risque que la télé française prend assez peu souvent. L'interprétation est pour le moins inégale. Et c'est pas seulement la faute des acteurs. Je pense qu'il y a des dialogues qui sont très, très mal mis en bouche et qui font que, du coup, des fois, il y a une forme de difficulté à faire passer naturellement les dialogues qui font que ça bute et qu'on a du mal à être touché par ce qui est dit. Marie, t'as pas l'air d'être 100% d'accord.
Non, j'essaie d'analyser comment je l'ai vu, parce que je l'ai pas perçu comme ça, mais je comprends, je sais pourquoi. C'est parce que quand il tombe dans les grands sentiments, que des séries font super bien, comme Sense8, qui est complètement grandiloquente, et là t'es ému, je trouve que c'est à ce moment-là que ça pêche, que les dialogues sonnent peut-être un peu creux, et je sais pas si ça tient à la langue française, je sais pas si parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de choses à l'écran, mais par contre, dans les premiers épisodes, le côté, je trouve que les dialogues étaient bien écrits, moi.
C'est au début que j'ai eu vraiment le plus de mal, mécanique des dialogues, que je trouvais vraiment trop genre, nous avons besoin d'ouvrir la porte, enfin, c'est-à-dire trop écrit, quoi. Personne ne parle comme ça, et moi c'est une chose qui me dérange généralement dans les séries françaises, c'est beaucoup trop souvent écrit comme ça, que seules quelques très bonnes séries arrivent à éviter, et là pour moi au début ça pêchait vraiment, et je trouve que c'est quand finalement on se resserre dans une urgence peut-être un peu plus grande émotionnellement de la série que ça commence à être un peu mieux joué, et je suis tout à fait d'accord avec Julia sur le face-à-face entre l'héroïne et ce personnage mystérieux qui fait d'ailleurs son apparition très vite, donc on spoile pas grand-chose en disant que ce personnage va jouer un rôle clé dans l'histoire, qui est un peu un extérieur du vaisseau, pour dire les choses simplement. Et là, ça fonctionne mieux pour moi. J'ai beaucoup de mal dans les séquences entre les membres de l'équipage, qui pour moi sont très inégalement interprétées, de par le talent des acteurs, qui à mon avis est inégal, mais aussi de par la qualité des dialogues.
Il y a quelque chose d'assez scolaire, et dans l'écriture des dialogues, et dans leur interprétation, à tel point que je me suis posé la question... est-ce que la production qui a fait les grands avant, qui a fait les E-Company ou qui a participé à les E-Company aussi, n'a pas fait exprès, parce qu'on retrouve dans la tonalité, dans les intonations, dans le jeu, des choses que j'ai vues dans les E-Company et que j'ai pas aimées dans les E-Company, et qui ont fait que je m'en suis très vite débarrassée. Bah, une espèce de parler de parler français comme à la sortie d'un bar, quoi, où on
Franchouillard.
Un peu franchouillard. Le côté un peu franchouillard me...
Et pourtant, c'est un casting européen. Enfin, c'est des personnages qui viennent des quatre coins de l'Europe.
Ouais, mais
des
l'italienne, elle est meilleure. Le russe, il est très bon. Hélène Viviès.
Qui est l'héroïne.
Qui est l'héroïne.
Et bien aussi.
Elle est très bien. Mais étrangement, elle parle assez peu. Et en fait, ça donne plus de profondeur et plus de sensibilité à son personnage, au-delà du fait qu'elle est assez... qu'elle est séduisante, quoi, qu'elle a un petit côté replay qui est vachement séduisant.
Un mot du format, on l'a glissé tout à l'heure, est-ce que dans une série comme ça, voir un format 20 minutes, ça change quelque chose fondamentalement, ou en fait, Marie, tu parlais d'une tentation du binge. D'ailleurs, je crois que OCS a mis toute la saison est visible sur son site. Ouais. Est-ce que le format, du coup, est juste fondu dans l'histoire, ou est-ce que, mine de rien, ça apporte un rythme? Moi, mission sur du 40 ou sur du 52 à la française, je pense que j'aurais pas accroché autant que je l'ai fait sur du format court.
Oui, c'est ça. Peut-être que ça a aidé aussi à pas se lasser dans le sens où c'est bien construit. En 20 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose. Donc, t'as le temps de construire une narration, partir au milieu et puis retomber à la fin. Et puis à la fin, un cliffhanger, donc ça repart. Oui. Et t'as pas le temps de t'ennuyer. Ça va se binge-watcher forcément très, très vite et très facilement. Est-ce que c'est une qualité? Je ne sais pas.
Projetons-nous un peu vers l'avenir comme la série. Est-ce que c'est une anomalie de voir une série SF comme Mission à la télé française? Ou le genre peut-il gagner sa place sur nos chaînes? Alors moi, je pense à HeroCorp, par exemple. On a parlé de Trépalium. Il y a Transfert qui arrive sur Arte aussi. Alors, on n'est pas dans l'espace. C'est non. Quand même des histoires différentes. Mais est-ce que là, on a affaire, pardon, c'est trop facile, mais à un ovni et on n'en verra pas d'autres émissions à choper là un filon qui semble très improbable de voir développer à la télé française.
Bah, j'espère que c'est pas un ovni et que ça sera pas la seule, justement. Je crois que ça peut ouvrir des portes. Enfin, c'est quand même dommage qu'en France on ait une tradition littéraire de science-fiction depuis Jules Verne jusqu'à Bordage et que je rappelle que La Planète des Singes, c'est Pierre Boulle et c'est un Français avant d'être un film et une série américaine. Donc
L'Armée des Douze Singes aussi, tous les singes.
On a quand même des choses à dire et à faire. Et là, j'espère moi que ça va ouvrir un peu des idées. Ça veut dire on peut le faire donc avec un petit budget dans un format qui n'était pas forcément
à la base. Oh, il y en a pas assez d'argent pour
faire ça. Oui, ben voilà. Alors, il y a encore des choses à revoir, mais moi je trouve que c'est un très bon espoir pour la fan de science-fiction que je suis.
Mais est-ce que c'est pas justement de ces contraintes qu'a réussi à naître peut-être, une série comme ça? Oui. On en revient toujours au même souci. Qui est-ce qui va produire ça sur les chaînes hertziennes? Est-ce que tu vas voir ça sur TF1, sur France 2, qui n'est pas du tout là-dedans. Arte, donc ils ont tenté deux fois de l'anticipation avec Trépalium et Transfert, mais c'est pas du tout de la science-fiction, c'est vraiment un monde
de l'anticipation et c'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même chose, c'est pas forcément les séries les plus réussies qu'ils ont faites.
Non,
donc,
c'est sûr que non.
Donc est-ce que, on l'a dit, cette série, si les épisodes de 52 minutes, 10 fois 52 minutes, je suis pas sûre qu'on aurait tenu de la même manière.
Ah, il faudrait autre chose, oui.
Mais donc,
faudrait,
est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on aurait le
on a parlé de Section 0. Enfin, voilà, ce genre de série-là non plus n'est pas une complète réussite.
On a évité d'en parler, justement.
C'était de l'anticipation aussi, Section 0. Oui, c'était pas une série de science-fiction, à part une espèce de drone énorme à un moment qui fait une apparition derrière une fenêtre pour désinguer tout le monde. Je me souviens pas d'avoir vu des grandes scènes de science-fiction dans Section 0. Sinon, l'installation d'un univers un peu glauque, un peu décalé, mais qu'on a déjà vu mille fois depuis Blade Runner.
Alors, quand même signaler que Netflix a annoncé la production d'Osmosis, qui est l'adaptation d'une web-série d'Arte, qui elle-même est une série. Mais là encore, on est plus dans l'anticipation, dans la pure science-fiction.
Oui,
on est plus dans un registre à la Black Mirror.
Je trouve que le fait qu'on nous ait montré un peu des vaisseaux dans l'espace, pas que l'intérieur du vaisseau, moi, j'aimerais bien que ça donne un peu envie à d'autres gens de faire des choses comme ça,
de vraies séries de SF. Aussi, qui travaille sur une série de science-fiction, qu'elle devrait sortir en 2020, qui s'appelle Néo Paris, mais je ne sais pas du tout ce à quoi ça peut ressembler.
Ah, le titre fait penser, encore une fois, de l'anticipation, mais c'est tentant politiquement.
Apparemment, il y aura des objets volants quand même.
Bon, en tout cas,
c'est annoncé comme SF, mais il faudra voir.
Espérons que Mission ouvrira une porte vers l'infini et que les séries françaises.
Ce serait bien parce que c'est un genre qui est extrêmement riche, extrêmement visuel, extrêmement beau. Moi, je suis On a dit des choses négatives sur Mission, mais je suis bluffée par le générique, je suis bluffée par la musique du générique, je suis bluffée par le vaisseau.
Non, mais si on en parle, c'est qu'on est intéressé. Voilà, sinon, c'est... on n'en aurait pas parlé. Mais on a été sévère, mais juste, je pense, pour cette série qui est une vraie proposition originale, même si elle reprend, comme on l'a dit, beaucoup de choses, et qui, en tout cas, espérons-le, inspirera, on peut dire, en tout cas, qu'OCS le fait régulièrement, ouvrira des portes vers autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir à la télé française. Et c'est ainsi que se referme cet épisode 23 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que Mission est à voir sur OCS City tous les jeudis soirs. Merci à Marie Turcan de Business Insider, Julia Baudin de TV Mag et Annelie Gond des Fiches du Cinéma. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio, à commencer par Jules Cros, comme toujours aux manettes. Merci enfin à vous qui nous écoutez et à ceux qui se sont déplacés pour nous écouter enregistrer cette émission dans le 11e arrondissement parisien. Merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, on se penche sur la carrière d'une des showrunneuses les plus en vue de la télé américaine, Jenji Kohan, créatrice de Weeds et Orange is the New Black, qui a fait ses débuts sur Le Prince de Bel-Air. Si, on en parlera. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'ACS et son podcast Un épisode et j'arrête sont sur Facebook et Twitter, et chaque nouveau like nous comble de joie. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.